Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. 14e jour de guerre, plus de 2 millions de réfugiés et un Vladimir Poutine plus dangereux que jamais, selon le patron de la CIA. L'Info C'est clair est intitulé « Qui pour arrêter Poutine ?» Nos invités, Mariam Pirzadeh, vous êtes journaliste à France 24, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po, auteur des Voix de la puissance, c'est chez Odile Jacob. Et enfin, Fabrice Dalméda, vous êtes historien, vice-président de l'université Panthéon Assas, auteur du podcast Les grandes manipulations de l'histoire qui est disponible sur l'appli Magellan. Et je signale que demain, vous publierez un nouveau podcast sur Vladimir Poutine. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, on l'a dit, un 14e jour de guerre. Plus de 2 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine et qui vivent un cauchemar. Je vous propose de commencer cette émission en regardant ce reportage de Stéphanie Pérez et Alban Micosi qui sont allés à la rencontre de ces réfugiés à la frontière moldave.
De l'autre côté de ce poste frontière, la Moldavie et ses habitants solidaires. Sur les visages, l'épuisement de mères qui ont souvent dû marcher dans la neige et le froid. La tristesse des couples qui se séparent parce que le mari doit rester combattre. Les forces russes avancent vers Odessa et bombardent actuellement plusieurs villes sur leur chemin. Dans chacune de ces centaines de voitures qui attendent pendant des heures, des histoires de vie fracassées. Il y a Irina, la grand-mère, qui pleure la maison où elle a toujours vécu, à Mykolaïv.
La bombe est tombée sur notre toit. Tout a explosé. On ne peut plus rester, il fait froid. Et les autres jours, ils ont continué à bombarder le jour et la nuit, à partir de 4 heures du matin.
À ce poste frontière, de plus en plus de familles, sur le point de partir se mettre à l'abri, en contact jusqu'au bout avec leurs proches, obligés de rester. Cette jeune femme attendait des nouvelles de son père, soldat sur le front de l'Est. Elle apprend qu'il est blessé. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Son père est décédé.
Il était tout pour moi. C'est pas vrai.
Tristesse infinie et terrible sentiment de gâchis pour ce couple fâché avec frères et sœurs en Russie.
Ils nous disent « on vous aide, on vous sauve ». Mais nous sauver de quoi ?
230 000 habitants ont déjà fui par la Moldavie. Direction l'Italie, l'Allemagne, la Pologne. La plupart ne sait comment ils seront hébergés. Mais ils ont une certitude. Ils veulent rentrer un jour dans leur pays pour leurs enfants.
Fabrice Dalméda, au-delà de ces images très bouleversantes, quand on voit cette fille qui pleure son père, mais quand on voit cette grand-mère, on pensait que ces images, on les imaginait en noir et blanc, on pensait qu'elles appartenaient au XXe siècle. Il y a quelque chose de terriblement hors sujet, hors sol, que de voir en Europe ces images de guerre dont on pensait qu'elles ne quitteraient plus les livres d'histoire, ces guerres territoriales à l'ancienne.
Mais vous avez entièrement raison, et c'est vrai que dans notre mémoire historique, on a, nous, le souvenir des rapatriés d'Algérie, qui sont revenus après la guerre d'Algérie, mais qui étaient un peu autre chose malgré tout. Il y avait le port qui débarquait, il y a eu un peu de solidarité qui s'est mis en place, même si on n'a pas été très généreux avec eux. Et sinon, il faut effectivement remonter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, là où il y a la grande vague de transferts de population, notamment les fameux Fährtrieben, les Allemands, qui vont quitter tout l'Est de l'Europe pour revenir se réfugier en Allemagne de l'Ouest, entre 11 et 13 millions de personnes. Donc c'est beaucoup de monde. Et sinon, avant ça, il faut revenir aux grandes migrations qu'on a eues, j'allais dire, soit à la fin de la Première Guerre mondiale, soit à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment, tout d'un coup, le mouvement de l'histoire qui nous percute avec une violence incroyable. Et sur cet extrait qu'on vient de voir, moi, je trouve que c'est extrêmement fort parce que vous avez dû le remarquer les uns et les autres. Depuis le début de la guerre, on voit peu d'images de morts. On en a eu quelques-unes au début du conflit qui ont été transmises. On a eu cette une du Times qui a mis en avant des soldats, enfin des enfants, pardon,
victimes morts.
De bombardement. Et là, on a, j'allais dire, la présence de la mort dans la guerre qui nous frappe de plein fouet. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a un peuple en ce moment qui se bat, qui lutte et qui lutte jusqu'à la mort pour un des principes sur lequel est fondée notre République, c'est-à-dire pour sa liberté. Et je trouve, à chaque fois, moi, ça me... Enfin, chaque fois que j'y pense, je trouve ça extrêmement bouleversant. Et en même temps, très frustrant parce qu'on n'y est pas et d'une certaine manière, on ne veut pas y aller, nous.
Avec Ancel.
L'histoire est tragique, hein, j'invente rien, c'est pas de moi. En une semaine, il l'a dit deux fois, c'est le président de la République, l'histoire est tragique. Hein. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Fukuyama, dans les années 90, nous a gratifié d'une ineptie totale. Il n'y a pas de fin de l'histoire. La guerre est une activité humaine. La guerre est une activité humaine. La guerre ne peut pas être mise hors la loi, ça n'a pas de sens. Vous aurez toujours un dictateur, vous aurez toujours un despote, vous aurez toujours une personnalité brutale, en l'occurrence, mais qui souhaitera, pour des raisons idéologiques, religieuses, mercantiles parfois, utiliser, faire usage de la force plutôt que de la diplomatie, pensant, à tort ou à raison, obtenir davantage par la guerre. C'est vrai sur le continent européen, c'est vrai sur les autres continents. Je rappelle quand même que dans les années 90, il y a eu une guerre... Alors longue, de basse intensité pas pour celui qui prenait une balle bien évidemment, en ex-Yougoslavie. C'était encore plus proche que l'Ukraine. Bon, bah, on a fini par s'enlacer, je me souviens très bien.
On a cru que c'était les décombres de l'éclatement de l'URSS.
Oui, mais là aussi on peut considérer que c'est les décombres de l'éclatement de l'URSS. On peut aussi considérer que c'est quelque part la fin du Moyen-Âge. On peut considérer ce qu'on veut. Moi ce que je vous dis, c'est que l'histoire est effectivement tragique et la guerre, on ne peut pas la bannir totalement. On peut tenter de limiter les conditions... d'émergence ou de réémergence de la guerre, notamment par la dissuasion, on y reviendra je pense, mais d'où l'importance de l'Europe puissance, mais on ne peut pas s'interdire de penser malheureusement la guerre.
Il n'empêche, Mariam Pirzadeh, on a l'impression que dans nos sociétés modernes, il y a une tolérance à la guerre qui est plus basse, que ces images, elles nous révoltent. Nous sommes au 14e jour de guerre. D'abord, je voudrais vous faire écouter un extrait. C'est le patron de la CIA qui, 14e jour de guerre, et l'armée russe, la deuxième plus puissante au monde, n'a toujours pas pris Kiev, cette petite capitale d'un petit pays européen. Je dis ça évidemment par rapport à la Grande Russie. On écoute le patron de la CIA qui parle de la grande frustration de Vladimir Poutine.
Je pense que Poutine est en colère et frustré en ce moment. Il est susceptible de redoubler d'efforts et d'essayer d'écraser l'armée ukrainienne sans se soucier de pertes civiles.
Mariam Pirzadeh, est-ce qu'on peut dire que le temps joue contre Poutine et qu'il se sent acculé et donc de plus en plus dangereux comme un lion blessé ?
Alors, il est dangereux parce qu'effectivement, il est isolé. Beaucoup d'experts et de diplomates s'accordent à dire que le Covid-19 l'a rendu complètement paranoïaque, avec une peur absolument viscérale d'attraper ce virus, isolé, mal informé. Et avec cette guerre, vous le dites, qui a commencé depuis 14 jours... une vraie surprise aussi de la résistance des Ukrainiens. Là, on parle de Kiev, mais autour, il y a la ville d'Irpin, dans les faubourgs de l'ouest de Kiev, où les soldats ukrainiens en sont réduits à dynamiter des ponts pour ralentir l'avancée russe. On voit effectivement que cette grande armée russe, finalement, n'est plus si opérante que ça. Les Américains ont mis en avant que, par exemple, les rations... des soldats étaient périmés, datés de 2015, qu'ils étaient à court de carburant. On se rappelle tous de cette colonne de 60 km en direction de Kiev de blindés russes qui n'avance pas. Donc il y a une vraie surprise de Vladimir Poutine qui s'attendait peut-être à être accueilli pas en héros, mais peut-être en libérateur, une population civile qui se mobilise, parce que ces images qu'on voit de réfugiés, vous ne voyez que des femmes et des enfants, les hommes sont mobilisés au front, ils n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine, et ils veulent se battre pour leur pays. Donc effectivement, Vladimir Poutine voit que l'étau se resserre, on va en parler plus tard sûrement des sanctions aussi qui se multiplient contre lui, et comme cet homme est totalement imprévisible, oui, il peut aller de manière... beaucoup plus forte dans la brutalité et attaquer de manière encore plus forte cette ville de Kiev, cette capitale, qui est pour lui le symbole de la Russie et de cette guerre.
Alors justement, qui est-il ce Vladimir Poutine ? Puisqu'on se pose la question de savoir s'il peut reculer. Donc pour cela, il faut savoir qui est-il, quels sont les ressorts de cet homme. Je vous propose, on a retrouvé ce portrait qui avait été fait au lendemain de son arrivée, de son accession au pouvoir en 2000. Et déjà, vous allez voir, les germes étaient bien là de ce qu'il est devenu aujourd'hui. On regarde ce portrait INA qui date de Vladimir Poutine du 26 mars 2000.
Vladimir Vladimirovitch Poutine est encore un inconnu quand il est nommé Premier ministre par Boris Yeltsin. De petite taille, le regard terne, le dauphin de Yeltsin a gardé une certaine raideur de son passé d'officier du KGB. Car il a servi pendant 15 ans au sein des services secrets soviétiques, dont 5 à Dresde en Allemagne. Agent fidèle du KGB jusqu'à la chute du communisme, Poutine saura toujours choisir le bon camp. En 90, il rallie le maire réformateur de Saint-Pétersbourg et gagne un brevet de démocrate. En 96, il rejoint l'administration présidentielle et fait son entrée dans le cercle des proches de la famille Yeltsin. 2 ans plus tard, il se retrouve à la tête de son ancienne administration rebaptisée FSB, Service fédéral de sécurité. Poutine va ensuite connaître une ascension fulgurante, chef du gouvernement puis président par intérim depuis la fin de l'an dernier. Surnommé l'homme de fer par la presse russe, Poutine n'hésite pas à afficher publiquement sa détermination, terrassant un jour ses adversaires au judo ou montant dans un avion de chasse pour survoler la Tchétchénie. La Tchétchénie, où Vladimir Poutine a lancé l'armée russe dans une guerre à outrance depuis 6 mois. Une guerre qui a tenu lieu de programme électoral et qui lui a permis de s'imposer comme le plus fervent partisan du retour de la Grande Russie.
Voilà, finalement, Frédéric Ancel, au lendemain de la catastrophe pour les Russes que fut les années Yeltsin, il y avait déjà cette volonté, chef Poutine, de reconstituer cette grande Russie.
Bien sûr, non seulement il y avait cette volonté, mais il n'a jamais cessé de le dire. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir et il dit et répète, on l'écoute peut-être pas suffisamment d'ailleurs, que, et je le cite, la chute de l'URSS a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle, fin de citation. Bon, il le dit, le répète, il l'assume. Bah, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec les moyens dont il dispose, des moyens de plus en plus importants ces dernières années? C'est de réparer cette catastrophe. Une catastrophe, évidemment, à ses yeux et aux yeux de la Russie, de la grande Russie, ce qui doit être la grande Russie, à ses yeux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage volontiers massif de la brutalité et du virilisme. Parce que là, vous nous avez encore épargné Vladimir Poutine, torse-poil, en train de lutter contre un ours, qui lui est tout nu. Vladimir Poutine, toujours torse-nu sur un cheval. Vladimir Poutine, en train de pêcher du poisson dans des eaux à 1 degré. Bon, donc, on a affaire à quelqu'un qui a créé toute une scénographie autour du retour à une Russie qu'il fantasme sans aucun doute, qui néanmoins doit recueillir la sympathie, cette scénographie, d'une partie au moins du public russe, parce qu'il a été élu, alors, dans des conditions compliquées, parce que la pression permanente sur les médias, sur les opposants, elle s'est exercée à maintes reprises. Et puis là, on a affaire à une véritable dérive autocratique ces dernières années, c'est certain. Néanmoins, il est incontestable qu'une partie de la population russe, jusqu'à présent en tout cas, jusqu'à l'aventurisme en Ukraine, le suivait sur cette voie-là. Dernier point, vous avez dit, et je vous rejoins, qu'il est très imprévisible. Je vous rejoins, mais depuis 2 semaines. Parce que depuis 22 ans, et je le répète, on a quelqu'un qui n'a jamais cessé de tenter de reconstituer morceau par morceau, pièce de puzzle par pièce de puzzle, une grande Russie. Alors pas forcément l'URSS, pas forcément la grande Russie des tsars, mais la plus grande Russie possible. Et ça, de toute façon, ça devait passer par l'Ukraine.
Quand vous dites qu'il est imprévisible depuis 2 semaines, Mariam Pierzadeh disait à l'instant, au fond, le confinement l'a isolé. Et c'est vrai que l'Élysée, après les discussions qu'il avait eues avec Emmanuel Macron, se disait très surpris de la paranoïa qui s'était imposée, infiltrée dans le personnage.
Oui, et c'est la raison pour laquelle on a été, je crois, beaucoup, je le dis avec beaucoup d'humilité, moi-même bien sûr, à nous tromper sur la possibilité pour Poutine d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus brutalement que ce qu'il avait fait jusqu'à présent, que ce soit la Géorgie ou même d'ailleurs l'annexion en 2014 de la Crimée, dont il savait très bien qu'en fait personne n'irait mourir pour la Crimée. Bon, là, il a mésestimé, on pourra peut-être y revenir, l'amertume de la Chine, la montée en puissance de l'Europe, la cohésion de l'OTAN et la résistance ukrainienne, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu dérive, parce que j'affirme et je continue d'affirmer que sur ces 15, 16, 17 premières années de pouvoir, donc jusqu'à ces toutes dernières années, on avait affaire à quelqu'un de très brutal, mais de très prudent, prévisible et pragmatique. Et là, manifestement, il l'est moins, peut-être ne l'est-il plus du tout. Je pense que vous avez raison, l'affaire du Covid l'a profondément marqué, tout le monde le dit.
Fabrice Dalméda, on disait à l'instant, enfin dans le sujet, il y avait cette volonté chez Vladimir Poutine de reconstituer cette grande Russie. Il est nostalgique, comme beaucoup de la... enfin, comme certains ont fait le reproche du pays de son enfance, et comme une certaine partie des Russes d'ailleurs, qui dit du temps de l'URSS, le pays était tenu et on était respecté.
Oui, il y a cette dimension, mais honnêtement, moi j'ai une vision de lui sans doute un peu plus nuancée que la dérive. Je ne crois pas qu'on gagne quelque chose à le traiter comme un fou, à penser, à avoir cet a priori-là. Je crois qu'il faut regarder quelle est sa marge de manœuvre, quelle est sa marge de calcul, quelle est sa logique, quelles sont ses représentations. Et c'est clair que Poutine, en fait, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, n'a pratiquement plus d'interlocuteur à sa hauteur. C'est-à-dire que, je m'explique, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Emmanuel Macron, ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Au mieux, il fera 10 ans. OK? Bon, Biden, même chose. Au maximum, il fera 10 ans. Ensuite, il disparaît du tableau. Erdogan, il est un peu plus ancien. Mais enfin bon, il a quand même une toute petite puissance à côté de la sienne. Un tout petit pays à côté de ses 150 millions d'habitants. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir quelqu'un à sa hauteur, il ne peut pas regarder le présent. Il est obligé de regarder. Même Xi Jinping, hein, ça fait que 10 ans. Ah, donc, il est obligé de regarder le passé.
Et donc, il se compare à...
Il se compare à Staline, il se compare à Pierre le Grand, il se compare à celui qui a été le fondateur de la Grande Russie, à celui qui lui a donné le maximum d'extension. Et d'ailleurs, ça correspond même à ce qu'il apprenait quand il était enfant dans les livres d'histoire. C'était ça qu'on lui disait. Et malgré tout, je pense qu'il y a chez lui, en vieillissant, l'idée de se hisser à cette hauteur-là, de rentrer dans le manuel scolaire, d'être l'homme dont on parle. Et il le fait en plus avec la culture familiale qu'il a reçue, qui est une culture qui était dans le communisme, avec des parents qui étaient ouvriers, qui travaillaient sur les arsenaux, et puis en même temps, avec la culture religieuse, hein, de base, que lui a donnée sa mère, hein, qu'il a fait baptiser, fait rare, dans l'Union soviétique de 1952, il a été baptisé, lui, à Saint-Pétersbourg, qu'à l'époque, on appelait Leningrad. Donc voilà la personnalité qu'il a. Il a foi en lui, et en plus, on a oublié de le dire, il a quand même eu des sacrés succès tous ces temps-ci. On a parlé de la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une parfaite réussite. Une république de Russie qui veut faire sécession. Il les tape, il les réduit à rien, il gagne, il met son chef local en place avec la famille Kadyrov. Il fait la même chose en Syrie. Il maintient son chef local avec la famille Assad. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, à côté, là, j'ai un État qui me gêne, j'y vais, je fais la même chose. Et de fait, il n'a pas si mal calculé que ça, parce que nous ne bougeons pas.
Et
c'est Frédéric. C'est encore un bon calcul.
C'est ça qui est terrifiant, Mariam Pirzadeh, c'est que Jean-Yves Le Drian avait l'air de dire l'autre jour, au fond, c'était une répétition presque ce qu'il a fait en Syrie. Alep, ça lui a servi de mode d'emploi. On se dit maintenant, il va s'attaquer à Kiev, mais ça va être terrible, Kiev, ça va être des guérillas, des combats de rue. Et pourrait-il se permettre de faire à Kiev ce qu'il a fait à Grozny, où il a rasé la ville, puisqu'il dit que Kiev, c'est son berceau? Et comment voit-il la suite des opérations militaires, avec tous ces ingrédients-là qui doivent se taper dans sa tête?
En tout cas, le Pentagone américain avait annoncé, et on a tous été surpris, avait annoncé cette annexion avec plusieurs scénarios possibles, donc annexion totale de l'Ukraine ou alors la prise de l'Est. Et visiblement, là, les plans se déroulent exactement comme les Américains l'avaient prévu. Pour revenir à ce que disait Fabrice d'Almeida, il y a aussi la Géorgie en 2008. Ouais. En 4 jours, il récupère 20% de la Géorgie. 20%.
C'est exactement le même schéma que l'Ukraine.
Exactement le même schéma.
Une
guerre éclair. Alors, une guerre éclair en 4 jours. Là, ouais, ça fait 14 jours. Là, pour revenir sur la Syrie, oui, ça pouvait être aussi, ça peut être effectivement un entraînement. Et d'ailleurs, il fait venir des mercenaires syriens, là, en Russie. Il y a les soldats russes qui sont mobilisés. Apparemment, c'est la quasi-totalité de l'armée russe qui est mobilisée en Ukraine. Il fait venir en plus des mercenaires syriens qui ont combattu à Derezor ou dans d'autres villes syriennes contre le groupe islamique, qui sont formés par qui ? Par le groupe Wagner. En plus de ça, il y a 70 000 combattants tchétchènes qui font partie, hein, de la Fédération de Russie. Donc il est épaulé effectivement par tous ces supplétifs qu'il a réussi à mettre sous sa coupe en s'engageant dans ces conflits.
Et Vladimir Poutine qui peut compter sur le patriotisme russe, parce qu'on a beau dire, les Russes sont nostalgiques et fiers de leur succès militaire. Il y a notamment cette lettre Z qui est le ralliement des patriotes, enfin, ou des va-t-en-guerre russes. Alors, que veut dire cette lettre Z? Quelle est sa signification? Ambroise Boulet et Lila Bellili ont enquêté. On regarde.
Un Z blanc, tracé d'un coup de pinceau sur ses chars et camions militaires russes. Un caractère devenu omniprésent sur le front ukrainien et désormais bien au-delà. Le Z s'arbore à présent dans ses rassemblements russes en faveur de l'intervention militaire. Ou dans des écoles qui filment ainsi leurs élèves sur fond de chants patriotiques. Mais aussi à l'international, sur le maillot de ce jeune athlète russe au Mondial de gymnastique artistique ce week-end au Qatar. Ce simple Z est devenu un message politique pro-Poutine sur les réseaux sociaux. Cette députée russe, qui l'arbore à la télévision, dit l'avoir inscrit à l'encre indélébile pour soutenir ses soldats.
Au travail, les gars, nous sommes avec vous pour toujours.
Comme une nouvelle bannière russe en caractère latin. Sur les réseaux sociaux, le ministère de la Défense russe en a fait un slogan. Le Z de Zapabiedou, pour la victoire en français.
Sauf que ce qui est gênant dans ce récit, Frédéric Ancel, c'est que les Russes sont en guerre contre leurs frères. Et d'ailleurs, on a bien vu la dame à la fin dans La Réfugiée qui disait « Mais j'ai mes frères à Moscou qui me disent « Mais on vient vous libérer ». Elle disait « Mais pas du tout, vous ne me libérez pas, vous me bombardez ».
Oui, c'est la raison pour laquelle, et je vais peut-être vous surprendre, pour moi, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je veux dire, c'est plutôt une bonne chose pour les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que Poutine ne peut pas faire ce qu'il a fait, vous l'avez très justement rappelé, à Grozny, c'est-à-dire raser la ville. A fortiori, à Alep, fou complètement des Syriens. Poutine, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas des Russes. Bon, donc là, il pouvait faire ce qu'il voulait. Évidemment, 44-45 en Allemagne. Là, si ce sont des frères, on ne les bombarde pas de la même manière. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a Kharkiv ou Kharkov, si vous voulez. Et là, je pense que l'amertume ou la colère dont parlent les Américains en faisant de la propagande ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans la psyché de M. Poutine, mais effectivement, visiblement, il a été très déçu de l'accueil, entre guillemets, des Ukrainiens, même des russophiles, puisque Kharkov, c'est à 40 km du Donbass, c'est à l'est, donc c'est russophone, en tout cas.
Il pensait qu'il serait accueilli comme ça, là ?
En tout cas, au moins de manière neutre. En tout cas, de manière passive. Au moins de manière passive, ça c'est sûr. Et ça n'a pas été le cas. Donc là, il a tapé effectivement plus fort, d'autant que la ville était tenue par l'armée ukrainienne. Mais pour le reste, il ne peut pas faire comme à Grozny, précisément parce qu'il considère les Ukrainiens comme des frères ou des petits frères, de manière d'ailleurs assez méprisante. Et là aussi, on retrouve un narratif de plus en plus paranoïaque, c'est-à-dire qu'en réalité, le monde entier m'en veut, et eux, ils sont en train de basculer chez des, entre guillemets, nazis. Leur pouvoir est un pouvoir nazi, donc celui de M. Zelensky, ce qui est un comble. Bon, et donc nous allons chasser ces gens-là, nous allons récupérer nos petits frères. Oui, les petits frères, ils n'en veulent pas. Des Russes, visiblement, en tout cas pour une majorité d'entre eux. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, qui s'inscrit dans des temps longs, dans des temps plus longs, et honnêtement, qui n'a pas de temps à perdre avec, ou qui n'a pas trop d'énergie à dépenser avec ses petits frères qui, de gré ou de force, doivent revenir. Alors juste une nuance, si vous permettez, je pense qu'on va y revenir. Fabrice a dit, on ne fait rien. Tu as raison, on n'ira pas mourir pour Kiev. D'ailleurs, quelque part, ça aussi, ça relève du tragique. Et là aussi, on a, à juste titre, enfin, ça fait partie du débat, mais légitimement, on peut entretenir un sentiment de honte à ce niveau-là. Néanmoins, je ne suis pas d'accord sur le « on fait rien ». L'Union européenne, jusqu'à présent, n'a pas pour vocation d'incarner une puissance politique et stratégique. Moi, je regrette, puisque j'appelle à l'Europe puissance. Et le tandem Macron-Le Drian depuis 5 ans, c'est Chine, a tenté de créer ça. Mais c'est justement parce que jusqu'à présent, on n'a pas été, puisqu'on n'a pas assumé la dimension stratégique et militaire, qu'on n'a pas été dissuasif, peut-être, pas suffisamment en tout cas, vis-à-vis de Poutine. Donc il faut l'être. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait rien, parce que sur le plan économique, technique,
on va revenir sur ce que peut faire l'Europe. Mais juste, on reste un petit peu sur ce conflit et les ressorts de ce qui se passe en Russie. On a tous été surpris, Fabrice Dalméda, par le narratif nazi employé par Vladimir Poutine. D'un point de vue historique, pourquoi et il est même allé jusqu'à le prédire à président Macron. Il lui a dit, tu sais, ce sont des nazis à Kiev. Cette idée de dénazifier l'Ukraine, ça parle au peuple russe ? Quels sont les ressorts qui font qu'en 2022, Vladimir Poutine parle tranquillement d'aller dénazifier une capitale européenne ?
Tranquillement.
Tranquillement. il fait gober à son peuple.
Non, le point d'histoire, si on veut vraiment chercher, c'est que dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine est tombée et a été sous administration hitlérienne pendant la durée de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est récupérée en 1945 par les Russes, par les Soviétiques, si vous préférez, qui se sont pas gênés pour, à l'époque, liquider toute opposition politique, y compris ceux qui avaient été les quelques collaborateurs du régime, comme nous avons eu nous-mêmes des collaborateurs du régime. En revanche, il y a eu depuis quelques années des nationalistes ultra en Ukraine, et lui, il fait comme si c'était eux qui étaient au pouvoir, ce qui n'est pas le cas, puisque ce n'est pas du tout l'étiquette politique de Zelensky, et ce n'est pas du tout l'étiquette politique de la majorité du pays. Voilà, donc c'est une caricature. Juste pour revenir, parce que les questions stratégiques, c'est très important. Poutine, il est un homme qui a appris dans la stratégie qu'on doit avoir toutes les options ouvertes. Et moi, c'est là où je suis pas en accord avec toi, Frédéric, avec Frédéric Ancel. C'est que je pense que l'idée que même c'est un peuple frère ne lui fait pas perdre de vue son objectif stratégique. Et son objectif stratégique, c'est la récupération complète de cet État. Donc si ça passe à un moment donné par la reprise en main manu militari violente des grands espaces urbains, je pense qu'il ne reculera pas dans le fait de mettre en œuvre la même prise systématique via les bombardements et l'artillerie que ce qu'il a fait ailleurs.
Mariam Pirzadeh, pour revenir sur la situation en Russie, que faut-il attendre du peuple russe ? On parle là de 140 millions d'habitants. Est-ce qu'ils ont peur et au fond ils ne manifesteront pas de même qu'ils ne sont pas révoltés contre le communisme ? Est-ce qu'ils sont sujets complètement soumis à la propagande ? Ils sont aveuglés ? Est-ce qu'ils sont patriotes ? Et bah, on est peut-être dans le mauvais camp, mais on est pour la Sainte-Russie. Quels sont les est-ce que Vladimir Poutine a de quoi que peut-il attendre de la part de son peuple ?
C'est un mélange un peu de tout ça. La population russe, elle a une capacité de résilience incroyable. Les Russes font face à des difficultés économiques tous les jours. Ils ont l'habitude des sanctions. Et ça, voilà, pour le moment, ils ne voient pas l'effet des sanctions immédiat sur leur portefeuille. Alors effectivement, c'est compliqué de faire une généralité sur ce peuple russe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande partie de la population russe qui soutient Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Il y a un tour de vis tragique qui s'est jeté sur les médias, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à Twitter, ils n'ont plus accès à Facebook, tous les médias indépendants ont été fermés, beaucoup de journalistes ont pris la route d'Istanbul pour continuer à travailler. Je rappelle que si jamais un journal ou un journaliste fait état de cette guerre en Ukraine, il risque 15 ans de prison. Donc c'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb qui s'est recouverte autour de la Russie. Alors vous allez me dire, oui, ils peuvent peut-être, comme les Iraniens d'ailleurs, qui ont aussi une chape de plomb sur leurs réseaux sociaux et sur leur information, ils peuvent avoir recours au VPN pour s'informer. Mais effectivement, la rhétorique que leur avance Vladimir Poutine, c'est « je suis le sauveur, je vais sauver nos populations russophones, nos frères qui sont dans tout l'est de l'Ukraine, donc dans le Donbass notamment ». Voilà, donc il se pose comme sauveur. Il ne faut pas attendre grand-chose de la population russe, en tout cas. Vladimir Poutine, il ne faut pas l'oublier, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Donc lorsque cette guerre, et je le souhaite comme tout le monde, lorsque cette guerre se terminera, Vladimir Poutine sera toujours en place. 2036, c'est-à-dire qu'il peut rester encore en place pendant 14 ans. Donc la population ne va pas se rebeller contre lui, elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Les quelques milliers de Russes qui essayent de manifester, eh bien, se font arrêter dans la foulée. On a vu ces images d'enfants arrêtés dans des fourgons de police. Il y a eu un filet d'arrestations ce week-end. 5000 Russes, et encore ce sont des chiffres officiels, donc c'est sûrement beaucoup plus en réalité. Donc c'est compliqué de manifester contre Vladimir Poutine aujourd'hui en Russie. La Russie, et je parle sous le contrôle de Frédéric Ancel et Fabrice Almeida, devient une dictature, de rejoindre la Corée du Nord ou la Chine.
Alors Frédéric Ancel, qui pour arrêter Poutine, si ça n'est pas le peuple, si ça n'est pas l'OTAN qui n'a aucune envie d'aller cogner contre les Russes, et on le comprend, son entourage, oui, qui pourrait l'assassiner, un Brutus ?
Oui, peut-être, ou le destituer. C'est déjà arrivé. Je vais vous dire franchement, je ne suis pas très optimiste là-dessus, parce que malgré tout, vous avez une grande partie des services de renseignement qui lui sont extrêmement proches, il en vient, hein, d'une part. D'autre part, c'est par définition lui qui a nommé la tête et sans doute les seconds couteaux de ces services de renseignement, d'une part. D'autre part, c'est vrai aussi pour l'état-major. Enfin, les oligarques, sur lesquels on essaye de jouer pour les désespérer de perdre leur yacht, les oligarques n'ont pas... D'abord, ils ne sont pas forcément unis et ils n'ont pas les moyens, mais j'allais presque dire
techniques. Ils ont perdu leurs milliards, quand même.
Ils ont perdu leurs milliards, mais d'accord, mais ils ne les ont pas échangés contre des couteaux ou des kalachnikovs ou du poison à mettre le matin au petit-déjeuner de M. Poutine. Vous voyez, c'est-à-dire que la puissance des oligarques n'est pas une puissance, j'allais dire, coercitive. Mais ce n'est pas une puissance sécuritaire ou militaire. C'est aussi simple que ça. Donc, ils n'ont pas les moyens d'aller soulever des régiments contre demain pour aller prendre le Kremlin. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Je resterai quand même, alors je ne sais pas, moins peut-être trop optimiste par rapport à Fabrice, sur les sanctions. On n'est jamais allé jusque-là.
On regarde les sanctions, ce que c'est. On a un sujet. L'Europe, l'Amérique vient de passer un cap supérieur parce que nous, on se refuse à faire des sanctions sur les hydrocarbures russes. Eh bien, hier, Joe Biden a franchi le cap. L'Amérique n'achètera plus de gaz et n'achètera plus de pétrole russe. En Europe, on se refuse à le faire parce que nous sommes très dépendants des hydrocarbures russes. Sujet de Julien Bigard et Julien Gasparuto.
Le front de sanctions occidentales serait-il en train de se fissurer face à la Russie ? Alors que l'Europe refuse pour l'instant de mettre fin à ses importations d'énergie russe, les États-Unis, eux, franchissent le pas. Annonce du président Biden.
Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis ciblent l'artère principale de l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de pétrole, de gaz et d'énergie russe.
S'attaquer aux exportations d'énergie de la Russie, c'est le meilleur moyen de l'affaiblir, selon les experts. Le pétrole et le gaz, c'est 30% de son PIB. Mais si les États-Unis décident de couper le robinet, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Le pétrole russe ne représente que 8% de leur consommation, 4 fois moins que l'Europe. Car l'Amérique est un gros producteur. Le sacrifice américain reste donc limité, rappelle Bercy. L'Europe, elle, est hyper dépendante. 40% de notre gaz provient de Russie, mais il y a des disparités. Pour la France, c'est 17% contre 55% pour l'Allemagne. La marche est donc trop haute pour couper rapidement les importations, selon Bruxelles.
Pas mal de pays membres pourraient souffrir si du jour au lendemain, on coupait les importations d'énergie russe. Nous ne devons pas prendre une décision qui nous coûterait plus qu'elle ne coûterait à Poutine.
L'Europe n'abandonne pas l'idée d'un embargo, mais vise surtout un objectif progressif. Réduire de 2/3 ses importations d'énergie russe d'ici la fin de l'année.
Frédéric Ancel, ce matin Libération titre « L'autre guerre est déclarée ». On ne se bat pas avec des armes, mais on se bat avec notre argent.
Oui, absolument. Alors, simplement, ce n'est pas nouveau. À peu près toutes les guerres fonctionnent sur deux dimensions. Hein. Le brutal, enfin, les armes, et puis le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Ça, c'est vrai depuis la Haute Antiquité. Alors oui, bien sûr, mais encore une fois, l'Union européenne, sa vocation, elle est économique, hein, depuis le traité de Rome de 57. Bon, alors si on passe à l'Europe puissance, ce que je souhaite et ce que M. Poutine, manifestement, a l'air de nous accorder, parce que même les Allemands vont commencer à s'y mettre peut-être, eh bien, on pourra peut-être être plus dissuasif. Mais en attendant, on n'a que ça. Mais ça, c'est la première fois qu'on l'utilise autant. Le ça, c'est quoi? C'est un train de sanctions pratiquement maximal pour les Européens, en tout cas face à la Russie.
On peut les rappeler, hein, l'argent de la Banque Centrale de Russie a été gelé. Les Russies ne peuvent plus lever de l'argent à l'étranger. On ne peut plus faire d'échange avec eux. Et là, les Américains viennent de décréter un embargo sur le pétrole et le gaz.
Absolument. Sachant que, la Russie est dotée d'une économie mono-exportatrice. Hein. Alors, mono-exportatrice, ça signifie qu'au moins 90% de la valeur des échanges de cette économie avec les autres s'inscrit dans un secteur. Alors, en l'occurrence, ce sont les hydrocarbures. Donc ça, évidemment, ça fait mal par définition. Et deux, du côté européen, on est quand même l'Union européenne devant les États-Unis. Hein. C'est le premier pôle d'échange commercial avec la Russie. Alors maintenant, le risque est le suivant, c'est de jeter plus encore la Russie dans les bras de la Chine. Alors ça, c'est le fameux, je le dis sans aucune ironie, c'est un débat extrêmement important, intéressant.
C'est-à-dire que les Chinois vendent leur pétrole, les Russes vendent leur pétrole aux Chinois.
Et les Chinois vont en acheter encore plus. Et puis après tout, l'Inde aussi est un gros client. Pourquoi l'Inde, qui s'est abstenue à l'Assemblée générale des Nations Unies lors du vote il y a 6 jours, pourquoi l'Inde, après tout, qui ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, n'irait pas acheter davantage de pétrole à la Russie? Mais ça, là on est dans l'hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne un rôle plus important encore à la Chine, vis-à-vis de nous peut-être, mais vis-à-vis de la Russie. Or moi, je suis absolument certain que Poutine ne veut pas tomber dans le giron chinois. Ça, il y aurait une espèce d'inversion, et je rejoins là encore les temps longs tout à l'heure bien établis par Fabrice. Dans les années 50, 60, 70, 80, évidemment, le plus puissant des deux partenaires, qui n'ont pas toujours d'ailleurs été partenaires, qui ont été même quasiment en guerre en 69, c'était évidemment la Russie par rapport à la Chine. Aujourd'hui, c'est non seulement inversé, ce schéma est inversé, mais la Chine risque de détenir la clé de l'économie russe dans les prochaines années.
On va revenir sur les relations compliquées entre la Chine et la Russie, mais on revient sur l'Europe. Mariam Pirzadeh, Bloomberg calculait qu'en achetant des hydrocarbures à la Russie, chaque jour, on lui donne 700 millions de dollars en lui achetant ces hydrocarbures. En gros, nous finançons, c'est de l'argent qui peut être utilisé ensuite pour faire la guerre à l'Ukraine. Est-ce que François Hollande n'a pas raison dans Le Monde quand il dit pour arrêter Vladimir Poutine, arrêtons de lui acheter du gaz?
C'est pas le seul. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre ça. La Pologne aussi demande ça. D'ailleurs, quand on parle des sanctions sur les banques, il y a deux banques russes qui ont été épargnées. C'est les deux banques qui permettent justement de payer ce gaz russe avec l'Europe. Pour revenir à la sanction de Joe Biden, elle est plus symbolique qu'autre chose. Le reportage le dit très bien. Et d'ailleurs, Joe Biden l'a dit. On a le luxe de pouvoir prendre cette décision. C'est-à-dire que le gaz russe, les Américains sont pratiquement indépendants énergétiquement. Ils n'ont besoin de personne.
En termes de pétrole,
ils sont même passés devant la Russie, devant l'Arabie Saoudite grâce au gaz de schiste, au mépris de certaines lois environnementales. Mais c'est un autre débat. Donc nous, on ne peut pas se permettre ça. Par contre, ça va rebasculer, redessiner les cartes géostratégiques, les partenariats. Je pense notamment à l'Iran, que je connais bien, qui est sous sanction, sous embargo à cause du nucléaire iranien. Ça accélère la signature d'un nouvel accord. Et là, les Américains commencent à penser aussi à importer le pétrole iranien. Ah oui. Donc ça redessine.
La conséquence de tout ça, c'est que ça remet l'Iran.
Ça remet l'Iran, bien sûr. Alors, sauf que la
fréquentable,
Russie...
presque.
Voilà, parce que là, toutes les options sont sur la table. Et Charles Michel, le président du Conseil européen, le dit. Ils sont en train de parler avec l'Algérie, avec l'Espagne, avec les pays scandinaves, notamment la Norvège, qui est très riche de son gaz. Mais la Norvège, qui est déjà à un taux maximal, elle ne peut pas aller au-delà pour le moment parce qu'elle produit à plein régime. Donc, c'est en train de redessiner les cartes géostratégiques de ce monde. Sauf que ces installations, ça va mettre des années à ce qu'elles soient mises en place, ces installations, pour permettre justement...
Des gazoducs depuis l'Algérie
Depuis l'Algérie. Il n'y a pas de gazoduc entre l'Espagne et la France, notamment. Donc, il faut construire ça. Donc, pour le moment, il n'y a pas de solution à court terme pour pouvoir se passer du gaz russe. Mais bien sûr, le nerf de la guerre... Pour frapper Vladimir Poutine, pour frapper la Russie de Vladimir Poutine, c'est son gaz, c'est son pétrole, parce qu'il dépend de ça. Et oui, c'est pas du tout un raccourci de dire qu'en achetant le gaz et le pétrole russe, on finance cette guerre en Ukraine, parce que cette guerre, elle va être chiffrée à un moment donné. Il y a des instituts américains qui parlent de 20 milliards de dollars par jour que ça coûte à la Russie. 20
la Russie
milliards de dollars par jour.
La Russie dépenserait 20 milliards par jour.
Voilà, exactement.
Pour financer cette guerre.
Pour financer cette guerre. Jusqu'à quand Vladimir Poutine va pouvoir payer, vous calculez, 14 jours fois 20 milliards, plus un équipement qui est moribond, des tanks, ils perdent, je crois, 10 ou 15 tanks par jour. Donc à un moment donné, effectivement, pour frapper Vladimir Poutine, il va falloir le frapper au portefeuille. C'est ce qui s'est passé exactement avec les Iraniens. Pourquoi ils sont revenus à la table des négociations sur le nucléaire? Parce qu'ils étaient acculés par les sanctions économiques.
Fabrice Dalméda, on le voit bien, l'Europe veut se couper de cette dépendance vis-à-vis du gaz russe, vis-à-vis du pétrole russe. Est-ce que, au sortir de cette guerre, on a toujours eu une Russie qui était à cheval, on disait, entre l'Europe et l'Asie, et plutôt européenne, la partie moscovite et Saint-Pétersbourg. Est-ce que le résultat de ce conflit ukrainien, ce sera qu'on va couper les ponts de façon un peu historique avec... la grande Russie qui basculerait, comme le disait Frédéric Ancel, alors peut-être en partenaire junior, mais qui basculerait du côté asiatique et dans le giron de Pékin.
Il y a des logiques contradictoires. Il faut quand même le dire, il y a des logiques très contradictoires. D'abord, le titre de Libération, l'autre guerre. Moi, je trouve que parler de guerre dans ce cas-là, c'est faux. Enfin, ce qu'on fait, c'est des sanctions contre un État délinquant. Il faut quand même le rappeler. On prend des mesures, entre guillemets, de police internationale contre le type qui est en train de taper sur le petit enfant dans la cour de récréation. C'est quand même ça, ce qui se passe. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est des sanctions. Et ces sanctions, il faut le dire, elles ont été jamais à ce niveau-là contre un État. Et aujourd'hui, c'est eux, les Russes, qui subissent le plus de sanctions, plus même que l'Iran, qui était, rappelez-vous, le grand Satan jusqu'à il y a quelques mois encore. Donc, c'est un moment important. Ces sanctions, elles ont un effet. Alors.
Et comment vous expliquez que, d'ailleurs, qu'on frappe plus sévèrement sur la tête de Vladimir Poutine? C'est parce qu'on se sent trahi par quelqu'un et un peuple qu'on pensait responsable?
Ça a été un partenaire, pratiquement en Syrie, il faut quand même le rappeler. Il nous a quand même aidé à nous débarrasser de ceux qui venaient poser des bombes chez nous en 2015-2016. Donc, on a eu une forme de considération pour lui. On a eu aussi, vis-à-vis de la Russie, et je pense au fait surtout, c'est qu'il a franchi une limite, c'est revenir à la guerre classique en Europe avec la haute intensité qu'on devinait. Donc c'est ça le tabou.
Et il agite le spectre nucléaire.
Bon. Ouais, exactement. Et juste pour un petit point, parce que c'est important, c'est ces sanctions, même si moi je trouve qu'elles ne risquent pas de faire sortir Poutine du pouvoir, je pense que ça n'a jamais marché. Ça n'a pas marché en Iran, ça n'a pas marché à Cuba. Je vois pas pourquoi ça marcherait tout d'un coup sur Poutine. Mais enfin bon, on sait jamais, je peux me tromper. Et par en revanche, ces sanctions, elles ont eu un effet massif. C'est qu'elles ont fait reculer la Chine. Il faut avoir présent à l'esprit que la Chine, qui était en train de se rapprocher et de s'aligner avec la Russie pour faire le nouveau bloc, en fait, aujourd'hui, est sur une position beaucoup plus subtile d'interaction avec le monde occidental, de crainte aussi de trop s'engager. Il regarde Poutine avec l'idée que c'est quelqu'un qui n'est pas non plus très fiable. L'Inde qui s'est abstenue aussi au Conseil de sécurité, regardez les médias indiens, qui défendent-ils? Ils défendent les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que côté indien, un État qui veut taper un autre État pour prendre des provinces, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le Cachemire. C'est la trouille que le Pakistan leur fasse la même chose. Donc tout d'un coup, ils sont vive l'Ukraine, les Indiens. Regardez India Today, c'est manifeste. Donc ce que je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que les sanctions ont eu un effet géopolitique massif. Marianne Pirzadeh a eu raison de le dire, mais beaucoup plus subtil que ce qu'on pense.
Ces sanctions ont-elles impressionné les Chinois? Et est-ce que ça pourrait expliquer cette fragilité qu'on sent bien dans cette alliance entre Pékin et Moscou, qui a été décrite hier par Pékin comme solide comme un roc, mais on s'interroge sur la profondeur de cette alliance stratégique. Sujet de Arnaud Miguet.
Xi Jinping accueillant Vladimir Poutine, 38e rencontre entre les deux hommes, c'était il y a un mois. L'occasion de vanter une amitié sans limite et une coopération sans interdit entre les deux pays. Depuis, il y a eu l'invasion russe, que la Chine ne condamne pas, et des sanctions économiques sans précédent contre la Russie, venant de toutes parts, sauf de Pékin.
Nous sommes fermement opposés aux sanctions.
Alors Xi Jinping va-t-il voler au secours économiquement de Vladimir Poutine ? Tout un symbole, au premier jour de la guerre, les Chinois ont levé les restrictions à l'importation de blé russe. Céréales, matières premières et essentiellement hydrocarbures, la Chine en redemande et ça tombe bien, Moscou en a à revendre. Cette semaine, les deux pays ont signé un accord de construction d'un second gazoduc reliant la Russie à la Chine, Silo-Sibérie. Le premier pipeline, le voici, il est entré en service en 2019, lancé juste après l'invasion de la Crimée. Entre les deux voisins, les affaires continuent, la preuve aussi par le chocolat. Sur ce site officiel de produits russes vendus en Chine, tout est aujourd'hui en rupture de stock.
Aujourd'hui, je suis très contente. J'ai reçu mes commandes. Regardez tout ça. Ce sont des produits russes. Dans ce contexte international compliqué, nous voyons que nous pouvons compter sur notre vieil ami chinois.
La Chine peut atténuer la douleur infligée par les sanctions, mais avec prudence. Depuis l'exclusion, par exemple, du système SWIFT des banques russes, les banques chinoises n'ont pas volé à leur secours.
Jeu d'équilibriste de Pékin qui ne voit pas d'un mauvais œil cette nouvelle dépendance de Moscou à son égard, mais qui ne veut pas non plus sacrifier sa relation avec les États-Unis et l'Union européenne, ses principaux partenaires économiques.
Et oui, Frédéric Ancel, on a entendu dans le reportage ce dignitaire chinois dire non pas nous sommes contre la guerre, mais nous sommes contre les sanctions.
Oui, bien sûr, contre les sanctions. Alors, je rappelle quand même qu'entre la Chine et la Russie, il n'y a aucun traité d'alliance. Il faut cesser d'employer des mots qui ne conviennent pas et qui sont galvaudés. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une coopération. D'ailleurs, c'était très bien dit dans votre reportage. Il y a une coopération économique, énergétique, politique, surtout depuis le printemps arabe et l'affaire libyenne, hein, qui a été très mal digérée par Moscou et Pékin face aux Britanniques et aux Français qui ont fini par contribuer à faire abattre Kadhafi, peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas d'alliance militaire. Et non seulement il n'y a pas d'alliance militaire, mais regardez à quel point la Chine s'abstient au Conseil de sécurité. Elle s'abstient à l'Assemblée générale des Nations unies. Xi Jinping appelle Zelensky pour lui faire part de sa grande tristesse, de sa déception, de son angoisse liée à la situation. Lui qui, aux yeux de Vladimir Poutine, donc le prétendu allié de Xi Jinping, est le nazi incarné. Bon, ben Xi Jinping, il l'appelle amicalement. Je rappelle par ailleurs qu'il y a de bonnes relations entre l'Ukraine et la Chine. Et enfin, surtout, j'insiste là-dessus si vous permettez, l'axiome diplomatique et stratégique fondamental de la Chine depuis maintenant des décennies, c'est le respect de la sacro-sainte souveraineté des États. Or, l'Ukraine est un État souverain. Donc ça ne marche pas pour les Chinois. Et enfin, cerise sur le gâteau, sur le plan économique, un baril de brut qui passe de 80, 90, 100 dollars, peut-être à 120 demain, à 150 dollars, à cause de Poutine. Pour l'économie chinoise, c'est catastrophique.
Eux, ils n'ont pas de pétrole, les Chinois.
Ils n'ont pas de pétrole, ils en ont, ils coûtent très cher, donc ils préfèrent en acheter en Arabie Saoudite. Donc, si vous voulez, ça, c'est extrêmement mauvais. Et enfin, alcool dans la cerise sur le gâteau, si vous le permettez encore, on a affaire à une possibilité de déstabilisation des relations internationales sur la base de, ou accompagnant quoi, un renforcement de l'OTAN. Ah ben écoutez, c'est vraiment pas ce qu'auraient souhaité les Chinois. D'où, me semble-t-il, une véritable prudence de la Chine qui pourrait très bien se muer en... Alors, discrètement, sans aucun doute discrètement, parce qu'il ne s'agit pas de faire perdre la face devant les Occidentaux, mais discrètement, demander ou exiger de Poutine d'arrêter ses bêtises.
Donc le voilà, qui pourrait arrêter Poutine ? Xi Jinping ?
Alors, dans une large mesure, oui. Maintenant, attention, est-ce qu'il le fera, sachant que lui considère qu'il est en guerre commerciale, voire idéologique avec l'Occident ? Ce n'est pas sûr. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, si l'affaire devait durer et s'enliser, au bout de quelques jours, quelques semaines peut-être, Xi Jinping dirait à M. Poutine de finir, de cesser son aventure ukrainienne.
Mariam Pirzadeh, on dit aussi beaucoup que ce qui se passe là en Europe, entre la Russie qui veut récupérer l'Ukraine... Eh bien, c'est comme un miroir, hein, c'est l'expression qu'on a lue dans la presse, de ce que la Chine pourrait faire avec Taïwan.
Exactement.
Est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose version asiatique un jour ou l'autre ?
Oui, le dirigeant chinois observe aussi la réaction des Occidentaux, leur réponse face à cette guerre, parce qu'effectivement, il y a une crainte, c'est que la Chine se dise « Bon, bah alors la Russie de Vladimir Poutine peut finalement un peu en toute impunité attaquer un État souverain, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Vladimir Poutine veut gommer le statut d'État à l'Ukraine et se dire moi je vais faire la même chose avec Taïwan. Donc oui, il y a une vraie crainte et je pense que Pékin observe avec beaucoup d'attention la réponse occidentale. Oui, c'est évident.
C'est effrayant.
Il y a un changement quand même qui est
c'est
en train de se produire.
C'est effrayant, c'est la saison 1, saison 1 l'Ukraine. Hein. On va mettre la saison 2 avec Taïwan.
C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, on se doutait pas. Je pense qu'on a tous été pris par surprise par la violence, la détermination de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, les diplomates, Emmanuel Macron, le président français, en témoignent. Il y a un rapport de force très, très important avec Vladimir Poutine et une détermination. Donc on est tous surpris. Donc, évidemment, qu'est-ce qui peut se passer demain? C'est tout à fait possible, bien sûr.
De la même façon que personne n'ira mourir pour...
Pour Taïwan, oui.
Attention. Oui, là,
on ira mourir plus volontiers mourir pour Taipei
Kiev. Mais pour les Américains, c'est crucial. Regardez le débat qu'il y a justement sur la fourniture d'avions à l'Ukraine. Vous savez, il y a une proposition polonaise. On vous renvoie des MiG et vous nous envoyez des F-16.
Personne ne veut livrer d'avions à l'Ukraine puisque ce serait considéré le pays qui en fournit. Serait considéré par Poutine comme déclarant la guerre à la Russie.
C'est-à-dire que
il faut avoir un sacré courage pour amener un avion.
C'est un projet qu'on a eu au départ, il faut quand même le rappeler, c'est des pays de l'OTAN, la Pologne, la Roumanie, les Tchèques, qui ont prévu de passer des MiG et des Sukhoi, donc des bombardiers, aux Ukrainiens. Les pilotes étaient en train de les prendre en main puisqu'ils devaient être réunis. Et en fait, on a arrêté le projet parce que ça posait des questions techniques et ça posait aussi la question du transfert de technologie à un autre pays extérieur à l'OTAN. Et ensuite, la question de l'escalade par rapport à Poutine. Donc, on en est là. Les Polonais, eux, essayent de continuer, mais les Américains les bloquent. Et ils les bloquent aussi en leur disant, les F-16 que vous nous demandez, en fait, ils sont pour Taïwan. C'est-à-dire que les Américains sont en train d'accroître leur dispositif à Taïwan parce que pour eux, ils ne peuvent pas laisser ce régime qu'ils ont mis en place, qu'ils soutiennent depuis des années et qui est, d'une certaine manière, la clé par rapport à l'Asie. Parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite en Corée? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite au Japon? Et puis quand même, il y a un petit point qui me taraude. Moi, j'ai l'impression quand même que les Chinois, pour l'instant, ne sont pas dans une stratégie jusqu'au boutiste urgente. La question qui se pose pour Poutine, si on veut revenir à la question psychologique, c'est que il est âgé. Il a été malade, il a eu un cancer, donc on peut se dire qu'il se dit « je joue ma grande partie maintenant, pendant que c'est encore possible ». Mais Xi Jinping, il n'est pas du tout dans cette optique-là, il n'est pas du tout dans cette stratégie. Même pour Hong Kong, rappelez-vous, ils se sont dit « quand il y a un trop gros morceau à manger, on le digère lentement ». Hong Kong, petit à petit, vous avez vu, ils font une attrition de la démocratie, mais ils ne se pressent pas. Ils continuent d'avoir encore un petit parti d'opposition.
Il y a une logique étatique et pas personnelle.
Taïwan, ce n'est pas dans les 10 minutes qu'il faut le prendre.
Il n'y a pas d'urgence.
Ils ont fait le test avec la Russie, ils ont vu que le test n'était pas facile.
Oui. Je pense que les États-Unis ne jouent leur crédibilité sur Taïwan, ils ne la jouaient pas sur l'Ukraine. L'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y avait pas de soldats américains en Ukraine. Il y a des soldats américains à Taïwan, non pas parce qu'il y aurait une base américaine à Taïwan, mais il y a un accord d'assistance militaire mutuelle et vous avez des Américains qui sont plusieurs milliers, qui sont à Taïwan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, dans la région, il y a des alliés, alors pour le coup, des alliés militaires privilégiés des États-Unis qui regardent ce que feraient les États-Unis sur Taïwan si la Chine menaçait militairement Taïwan, comme le laisse sur le feu. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, un certain nombre d'autres États de la région qui sont soit déjà alliés à l'Australie, bien sûr, des États-Unis, soit qui tentent à s'en rapprocher, y compris le Vietnam, par exemple. Parce que les Chinois avancent sur les îles Spratly, sur les Paracels, etc. Donc, je pense que là, il y a une crédibilité, si vous voulez, à jouer pour les Américains, qui est constitutive de leur puissance de manière générale. C'est la clé de l'Indo-Pacifique et par conséquent de leur statut de numéro un mondial.
Mariam Pirzadeh, est-ce qu'on peut dire qu'aussi l'une des leçons de ces événements catastrophiques, c'est qu'il n'y a pas de havre de paix sans appartenir à ces grandes alliances que sont l'OTAN ou l'Union européenne? On est à quoi, un mois de l'élection, là, un peu plus d'un mois de l'élection. Vive l'OTAN, vive l'UE. Non, parce qu'on parlait, je fais un peu de politique politicienne, parce qu'on voyait tout à l'heure les aides sur les tanks symboles de la Russie. Donc évidemment, ça résonnait avec le Z d'Éric Zemmour, qui milite pour une sortie, pour se détacher de l'OTAN, pas pour une sortie de l'OTAN.
Oui, alors c'est le problème de l'Ukraine, effectivement, c'est entre guillemets de ne faire partie de rien. de ne pas faire partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, dans une interview à une chaîne américaine il y a quelques heures, disait que de toute façon, il était très lucide sur le fait que son pays ne rentrerait pas dans l'OTAN et qu'il était prêt à faire des concessions sur ça. Mais forcément, un événement international de cette ampleur-là s'invite dans une élection présidentielle qui va se jouer à moins d'un mois maintenant. Il y a des voix, il y a Jean-Luc Mélenchon qui plaide aussi pour une neutralité face à ces conflits. L'OTAN, c'est un vaste débat. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en débattre.
Non, mais dans un monde dangereux, c'est bien d'avoir des amis.
Bah, bien sûr, mais c'est pour ça. Et c'est toute la complexité à laquelle font face les États en ce moment. C'est, voilà, on se serre les coudes, mais voilà, cet État ne fait pas partie de notre giron. Donc c'est...
Il faut aller vers l'Europe puissance.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission riche et passionnante. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.